présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Faire aussi des postes de radio, télévision, de la même façon avec juste un plateau que l'on mettra sur la peau et que la peau décodera, etc., etc. Intéresse les partis politiques et les gouvernements du monde entier. Le président de la République française, M. Marc Girardon, qui est en réalité le fils d'Hélène de Hautebord, mais ne le sait pas car il a changé de nom pour faire ses diableries. Si vous vous souvenez, c'est M. Félicien Pontois qu'il a fait élire président de la République avant qu'il ne soit assassiné par sa femme. Parce que lui avait assassiné l'ancien président de la République, David, pour mettre l'autre, qu'il a qualifié de diable. Donc, Marc Girardon, que vous connaissez parce qu'il a eu de multiples aventures que je vous ai contées, est président de la République dans celle-là, et il a convoqué le président du groupe Genetou à l'Élysée. Gallien, en recevant la convocation, se demande ce qu'il doit faire et s'il doit y aller. Il n'aime pas tellement ce Marc Girardon. Ils n'ont pas le même sens de la vie. Il a un côté pas franc et fréquente de drôles de gens. Allô ? Pouvez-vous dire à M. Danfort de venir me voir à mon bureau ? Merci. Un quart d'heure plus tard, entrez. C'est M. Danfort, M. le Président. Venez vous asseoir, M. Danfort. Bien. Voilà, je vous ai fait venir parce que j'ai reçu une convocation du président de la République. Et j'aimerais savoir si je dois y aller. L'enfant lui dit, il faut tout de même y aller, c'est le président de la République. Mais vous lui montrez notre indépendance. Nous n'appartenons à personne. Le siège est en France, mais il pourrait être de partout. Gallien y va. Arrivé à l'Élysée, le garde le mène vers le président de la République qui se trouve à son bureau.
Le garde frappe à la porte, l'ouvre et le fait entrer. Gallien voit le président de la République assis à son bureau qui lui dit « Venez vous asseoir, monsieur Diap. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. » Et Gallien va s'asseoir en face de lui sur une chaise Louis XV.
Marc lui demande « Comment allez-vous, monsieur Diap ?»«
Je vais très bien, je vous remercie. » Marc lui dit
« Vous avez monsieur Pontoire. Vous lui passerez mes amitiés. Quel homme ! C'était extraordinaire, toutes ses idées. Ah, quelle époque ! Nous avons fait ensemble, nous faisions fortune en un rien de temps à ce temps-là. C'était une période folle. »
Gallien lui dit, « Mais maintenant aussi, c'est fou ce que l'on peut faire. »
Marc lui dit, « Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Enfin, tout a une fin. Mais c'est vrai que maintenant, on peut faire des choses extraordinaires. Et justement, je vous ai... fait venir, c'est vous parler de ces choses, vous savez, de ces centres où l'on connecte le cerveau, les sens à un ordinateur pour faire croire n'importe quoi. »
Gallien lui dit, le centre de vacances et le centre sexuel.
Oui, c'est bien cela. Et je me disais que ça pourrait peut-être être utile à l'État d'avoir ce genre de choses pour diriger le peuple.
Gallien lui dit, et lui faire faire tout ce que l'on veut.
Oui, bien sûr, on pourrait lui faire croire qu'il vit dans un monde merveilleux, qu'il gagne beaucoup d'argent, etc., etc. Toute une population dont les sens seraient connectés.
Gallien lui dit, comme le docteur Knock, qui met tout un canton au lit. Non, monsieur le président, ce serait pas bien. Ce serait de la dictature. Et si tout le monde est au lit, relié à un fil, à un ordinateur, qui ferait le travail?
Marc lui dit,
on pourrait peut-être faire une collection sans fil, comme le téléphone ou l'Internet. Comme cela, les gens pourraient tout de même se déplacer.
Galien lui dit,
oui, je sais que ce serait facile à faire, mais laissez ce genre de choses à la science. Car si un parti politique ou un gouvernement s'en occupe, on va crier à la dictature, tandis que si c'est les scientifiques, l'on ne dira rien, ou plutôt, on criera au progrès. Ne vous faites pas de soucis, notre but est le même que le vôtre. Nous aussi, nous voulons une population calme et rangée. Nous commençons tout doucement par les loisirs, le sexe. Et après, le travail. On fait travailler les gens dans le virtuel, en lui disant que si leur sens entre dans la machine pour la réparer, cela est plus facile. Pour les faire, au début, réparer à l'intérieur des machines de micro-informatique avec de mini-instruments. Et ils verront les choses en y étant dedans comme des mini-hommes,
grâce à des mini-caméras qui seront reliées à leur cerveau. Ceci pour faire des opérations, le travail dans les lieux difficiles. Après le travail, il y aura des cours virtuels avec les sens où les gens croiront entrer dans un magasin et choisir, essayer des choses. Et leurs sens seront reliés à des centrales d'achat, ce qui fait qu'ils achèteront pour de vrai ce qu'ils auront vu, pour ainsi dire, en rêve. Il y aura des jeux, du sport, de l'art, et même des conférences à distance où des personnes croiront vraiment y être. Comme vous voyez, des vacances au sexe, on passe au travail, au sport, à l'art et tout. Et petit à petit, les gens vivront une grande partie de leur vie avec leurs sens connectés à leur ordinateur. Ils ne verront plus la différence entre la réalité et le virtuel. Nos mutants et chimères seront les surveillants de cette immense zone surveillée. Et ils feront en plus les travaux ingrats. Alors, monsieur le président, laissez-nous la liberté d'entreprendre et vous serez gagnant. Ceci sans rien faire, même pas en levant le petit doigt. En résumé, les hommes seront connectés à l'ordinateur pour être déconnectés de la vie réelle et seront surveillés par les mutants et les chimères.
Marc lui dit, bien, je vous donne la liberté d'entreprendre. De toute façon, aucun parti politique n'oserait empêcher une entreprise d'aller de l'avant à cause du chômage. On pense toujours qu'un petit coup de pouce peut ralentir ou donner des emplois. Alors, allez-y.
Merci, monsieur le président. Notre politique va dans le même sens, dans la même direction que la vôtre. Diriger, garder, contrôler.
Il y a de plus en plus de troubles nerveux dans la population. Il y a des comportements étranges. C'est dû à toutes les ondes, les informations que reçoit le cerveau humain. Le cerveau les reçoit soit directement par un contact sur la peau ou par des machines. L'atmosphère se remplit d'ordre, ce qui fait que les sens et le cerveau peuvent être troublés par toutes ces informations qui passent. Il y a des gens qui deviennent déments parce qu'il croit voir et entendre des choses qui ne sont pas ou qui ne leur sont pas adressées. Monsieur Guy est un homme de 50 ans, grand, mince, pantalon noir. Il marche dans la rue en se pressant car il a rendez-vous avec un de ses amis, Monsieur Laurent.
Il entre en vitesse dans l'allée de l'immeuble. Sonne à la porte. La porte s'ouvre. Et là, M. Guy se trouve nez à nez avec lui-même. Bonjour, entrez, je vous en prie. M. Guy, terrifié, entre. L'autre ferme la porte. Là, il voit son appartement. Allez, allons au salon, je vous en prie. Il suit son double. Entrez. Il se trouve dans son salon. Monsieur Guy commence à paniquer sérieusement et se dit:
ce n'est pas possible. Que vous arrive-t-il? Monsieur Guy lui dit: comme si vous ne le saviez pas, vous avez pris ma place. Comment ça? Ici, je suis chez moi, et vous êtes moi. Je ne vous comprends pas. Monsieur Guy lui dit: mais enfin, vous n'avez qu'à vous regarder dans la glace, et vous verrez bien que nous sommes semblables.
Oui, semblables. Une femme vient d'arriver.
Monsieur Guy reconnaît sa femme. C'est une petite femme, mec dans les 40 ans, cheveux châtains. Elle demande: que se passe-t-il? Monsieur Guy lui dit: voilà ma femme. Elle lui dit: vous êtes complètement fou. Il lui dit: mais si, je suis votre mari. Vous voyez bien que je suis votre mari. Et puis d'abord, vous êtes chez moi. Je reconnais tout ça. L'homme lui dit: détendez-vous, vous faites un cauchemar. Je suis votre ami. Hein? Détendez-vous. Mais nous sommes semblables, l'homme lui dit. Si peu, venez voir. Et il le mène devant un miroir. Monsieur Guy voit avec stupeur qu'il ne ressemble pas à Monsieur Guy, mais à la personne avec qui il est invité. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas moi. Je vous vois. Et vous, vous avez pris ma place, et mon appartement, et ma femme. L'homme lui dit: vous n'avez jamais eu de femme, et je suis bien chez moi. Mais c'est pas possible, je reconnais tout ici. Bien sûr, parce que vous êtes venu plusieurs fois. Monsieur Guy a la tête qui tourne.
Si vous permettez, je vais visiter l'appartement. Oui, bien sûr. Faites comme chez vous. Il visite l'appartement, les pièces. Il reconnaît tout. Même les choses les plus intimes. C'est ici, là, dans ce tiroir, que je range mes sous-vêtements. Vous voyez, ils y sont. Et puis, mes lettres. C'est là. Ici. Là. Mon pyjama. J'ai l'habitude de le mettre sous le sommier. Vous voyez, il y est. C'est bien que je suis chez moi.
Voyons. L'ami lui dit, cela va passer. Cela va passer, ce n'est rien. C'est qu'un mauvais rêve. Venez, allons au salon, vous asseoir. Et ils vont au salon. Allez, asseyez-vous.
Monsieur Guy dit pourtant, je suis chez moi. La femme lui dit, ne vous en faites pas. C'est un peu de fatigue. Je vais vous donner un bon petit bouillon. L'homme lui dit, oui, un bon petit bouillon. Par ce temps-là, c'est très bon. Va lui chercher le bouillon. Monsieur Guy, tout à coup, se sent tout petit. Tout petit.
La femme va chercher le bouillon. Elle revient. Tenez, ça va vous faire du bien.
On voit, il voit qu'on lui tend un grand bol de bouillon, bien fumant. La femme lui dit,
tenez, buvez, ça va vous faire du bien.
Il a le breuvage près de lui, les deux visages contre le sien. Tout à coup, il se souvient, c'est lui et sa femme qui ont invité l'ami Laurent pour l'empoisonner et lui prendre son argent. Puis, après l'avoir empoisonné, ils l'enterront dans la cave. Monsieur Guy voit les six couteaux préparés pour le couper en morceaux dans la cuisine. Et lui et sa femme qui ont préparé ça. Et il est devenu, par quel hasard, la victime de son crime. Peut-être tué par lui-même. La femme, sa femme lui dit,
buvez, allez-y, il le faut, il le faut.
Le mari, c'est-à-dire lui qui lui dit,
on va vous aider à boire,
il dit à sa femme, il faut en finir, allez. L'homme se penche sur lui, lui ouvre la bouche, le force à boire en lui pinçant le nez. Et la femme lui déverse dans la bouche le breuvage de Hongeor. Guy a avalé le moins possible, crie, hurle.
Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui sois la victime de mon crime.
Tout tourne autour de lui. Il voit un couteau qui s'ébat sur lui, du sang, du noir. Puis, Guy se réveille. Il est redevenu conscient en Laurent. Sa femme lui dit,
qu'est-ce qui t'a eu? T'as perdu connaissance Comment?
Il se relève, il était à terre, à côté du corps de Guy, ensanglanté, un couteau au front. Il lui dit,
rien, j'ai eu un malaise. Allons, finissons le travail.
Et ils prennent le corps. Pour le découper à la cuisine. sur la table.
Mais là, il ne peut pas, car il a l'impression, c'est de se couper lui-même. Pris de dégoût,
il se sauve.
Pris de dégoût et de remords, il se sauve dans les rues désertes. Et s'arrête pour entrer dans un café. Il s'assoit à une table, c'est un petit café populaire. Là, il réfléchit. Il se souvient qu'il a été chez Guy pour l'inviter, que sûrement chez lui, il a été connecté par ses ondes. D'ailleurs, Guy lui avait mis son code dans la main pour lui donner des messages. S'il ne pouvait pas venir, et le col a dû rester imprimé dans la peau de Laurent. Il a reçu toutes les informations que Guy recevait de son cerveau. Ce qui fait qu'il a été Guy un moment. Et il s'est vu se tuer et sentir la douleur et la peur de sa victime. Le bistroquet lui demande « Qu'est-ce que je vous sers ?»« Un scotch. » Après avoir bu, il n'ose plus rentrer chez lui. Car il sent en lui encore les ondes de Guy, qui n'a pas encore quitté ce monde, et qui lui crie sa douleur. Et lui reproche son geste. Au bout d'un moment, il se sent obligé de quitter le bistrot. Une fois dehors, il va se jeter à la Seine. Sa femme s'est retrouvée seule avec le cadavre. Elle a découpé
et brûlé dans la chaudière. Les ongles de Guy sont allés jusqu'au central du commissariat pour les prévenir. Il a dénoncé d'une façon anonyme sur ordinateur. La police est venue chez elle et a retrouvé des vêtements et les ossements de la victime. Elle a été arrêtée et son mari recherché, retrouvé noyé dans la Seine. Drôle d'histoire que la police n'a pas compris et se demande pourquoi on les a prévenus. Par qui ? Peut-être par un complice. Mais pourquoi ? À cause de disputes pour le butin ? Personne n'a su la vérité. Même pas la pauvre femme qui n'a pas compris le comportement de son mari chez eux. Un homme marche dans la rue. Et tout d'un coup, il voit que tout devient mou autour de lui, que le sol se soulève comme un tapis, que les maisons fondent, sort du sol des hommes. La chair en putréfaction. Ils sortent du goudron et marchent droit devant lui sans qu'il le voie. L'homme panique et court, court, court. Il sent qu'ils sont de plus en plus nombreux. En courant, il sent que le sol est de plus en plus mou et gluant. Il a de plus en plus de difficultés à courir. Le goudron colle à ses pieds. Il entend derrière lui le groupe de cadavres qui lui courent après. Et tout d'un coup, sort du sol devant lui un énorme chien avec la lave. Le chien fonce sur lui. L'homme tombe et perd connaissance. Il est mort sur le sol, au milieu de la chaussée. Les gens sont autour de lui, les voitures arrêtées. Un homme dit, mais qu'avait-il à courir comme ça? On dirait qu'il avait peur de quelque chose. Ses sens avaient reçu des ondes de télévision qui avaient diffusé un film d'horreur.
dans un appartement un homme de 40 ans, grand, mince, à cheveux châtains, costume gris, et dans un fauteuil au salon.
Entre sa femme.
Elle va vers lui. C'est une grande femme d'un 35 ans, cheveux blonds, visage fin, mince, robe bleue. Elle lui dit,
il est l'heure de manger. C'est prêt.
Bien, j'arrive. Il se lève et suit sa femme pour aller à la cuisine. Il s'assoit à table. Elle s'assoit en face de lui.
Et elle sert le gratin dauphinois. Et il mange tranquillement. Elle lui demande, c'est bon ?
Oui.
Et il lève la tête pour voir sa femme. Tout à coup, il voit la tête de sa femme se tordre comme du caoutchouc, grossir, devenir une vieille femme horrible. Il est paralysé de peur. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Elle se penche vers lui. Je te fais peur, mon chéri.
Puis, elle prend un couteau sur la table et fait le geste de lui en donner un coup. Il se retire.
Non !
Il se lève horrifié. Il veut sortir de la cuisine. Elle le rattrape. Cette vieille chose. Par derrière, elle se retourne et veut lui donner un coup de couteau. D'un geste, il se dégage. Elle lui court après dans la cuisine. Lui crie, laissez-moi, où est ma femme ? Qui êtes-vous ? Tout d'un coup, il voit au pied de la chaise où elle était assise, le corps mou, comme un ballon dégonflé de sa femme. L'autre met le pied sur le cadavre. Mais qui êtes-vous ? Elle lui dit, je suis ta femme, voyons. Tu as peur de quoi ? Viens m'embrasser. Elle s'approche de lui. Il recule, horrifié par cette horreur. Et...
Il est tombé par la fenêtre qui était restée ouverte. Il est mort sur la chaussée, aussi plat que sa femme.
Il y a des tas d'hallucinations de ce genre et encore plus horribles ou plus romanesques. Un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille qui n'existe pas, etc. Ceci est dû aux ondes que les sens reçoivent des informations qui déconnectent de la réalité. Ces messages n'étaient pas destinés aux sens humains, ce qui fait que les sens sont déconnectés de la réalité à cause de ces informations qu'ils reçoivent. Le groupe Gentoo recherche une longueur d'onde qui ne soit pas perceptible aux sens humains. Les jours passent. De ses voyages à Lyon, ou plutôt à un de ses passages à Lyon, comme toujours, Galien va voir son cousin Philippe. Philippe, l'amour de toujours, celui qu'il aimera toujours malgré tous les autres. Guillaume, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même amour. L'amour de Philippe, c'est comme si c'était son deuxième lui-même. Galien, même loin de Philippe, est près de lui. Et s'il n'était plus, c'est comme si on lui arrachait une partie de son corps. Va retrouver Philippe dans sa chambre.
Il est debout, le dos à la fenêtre, les mains dans les poches, le regard lumineux, bout d'or. Galien va vers lui.
Bonjour, Philippe lui répond. Bonjour, Galien lui demande. Qu'est-ce qui ne va pas?
Philippe se mord les lèvres et lui dit. J'aimerais savoir si tu en aimes un autre.
Galien est surpris.
Pourquoi cette question?
Parce que je veux le savoir.
Galien lui dit en rougissant.
Mais non, bien sûr. Qui t'a mis cette idée dans la tête?
Philippe lui répond. On m'a dit que tu vivais avec quelqu'un.
Qui t'a dit ça?
J'ai reçu une lettre.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Mais c'est toi que j'aime. J'héberge une personne parce que j'y suis obligé. C'est un peu compliqué à t'expliquer. On a fait des choses sur lui. Et pour réparer les torts qu'on a eus, il faut l'aider. Mais ne crois pas. Et puis, je suis toujours le même. Tu penses? Je ne pense qu'à mon travail. Si tu crois que j'ai le temps de m'amuser, Philippe, tu dis, tu parles de choses que tu fais. Moi, au moins, j'ai pas changé. J'ai gardé mes idées. Je suis pas devenu un vulgaire PDG qui met sur le marché des choses horribles. Gaïen lui répond. Bien sûr que tu n'as pas changé et que tu ne peux pas changer puisque tu ne fais rien. Philippe lui dit. Tu crois connaître la vie? Mais la vie, la vraie vie, c'est pas la vie de milliardaire avec de belles femmes bien habillées, pleines de bijoux, des choses pleines de nouvelles technologies. Non, la vie, c'est autre chose. La vie réelle, c'est la pauvreté, le chômage, les malades, les SDF, les bagarres, les crimes de plus en plus violents, le manque de sécurité, de travail, de culture. Les villes sont comme les gens, et tu ne vois rien de tout ça. Gaïen lui crie. Je ne suis pas le gouvernement, et c'est à cause d'une politique depuis les années 70 et même avant, avec ces politiques idiotes qui traitent les problèmes au jour le jour. Moi, je crois en la science. Philippe lui dit, plus la science avance et plus il y a de la misère. Gaïen lui répond, eh bien, entre dans mon groupe et montre-nous ce qu'il faut faire, ou fais-le. Philippe lui dit, non, j'entre pas dans le système. Gaïen lui dit furieux, et oui, c'est simple, tu critiques ce que font les autres, mais tu ne fais rien, et tu ne veux rien faire.
Et il quitte furieux.
Et en même temps content que la discussion ait bifurqué sur la société, la pauvreté, au lieu de rester sur la fidélité, ça aurait été plus compliqué pour se défendre. Une semaine plus tard, à Paris, Gaïen reçoit une lettre de Philippe. Il lui écrit « C'est idiot notre dispute. Je suis qu'un imbécile qui ne fait rien et passe son temps à tout critiquer. Je crois que je suis sûrement un peu paresseux. Je suis bon qu'à critiquer. J'ai décidé, pour me changer les idées, c'est d'écrire sur la musique en général. Pour pouvoir expliquer combien la musique est utile aux hommes, malgré que certains pensent qu'il n'est pas utile d'être intelligent pour aimer du Mozart, moi je crois qu'une personne qui est primaire ne peut pas apprécier certaines musiques et qu'il faut un cerveau suffisamment civilisé et développé pour aimer cette musique. Je crois que les primaires ont leur musique et les autres ont la leur, chacun suivant son développement à la sienne, mais que celle des gens plus développés est plus compliquée à créer et comprendre. Il faut un cerveau plus développé pour écrire de la musique comme Mozart que pour une musique tam-tam. Même si on aime la musique tam-tam, ça se comprend tout seul. Voilà ce que je vais écrire, développer dans ce petit livre. Oui, je sais, on est loin des problèmes du temps, de tous les jours, mais l'homme a besoin d'un peu de distraction pour reposer son cerveau et ne peut pas tout le temps penser à des choses tristes, à ses problèmes. Alors se distraire en lisant ce petit livre comme le mien, pourquoi pas? Et si je peux lui faire oublier ses soucis pendant quelque temps, j'en serai très heureux. Pour ce qui est de ma jalousie, pardonne-moi, je suis ridicule. Mais je t'aime tant, et tu es si loin. Mais je te reste fidèle. Sûrement que mon caractère casanier, et qui ne cherche pas des nouveautés, m'aide. Tandis que toi, à Paris, avec ta situation, tu dois avoir des temps de tentation, et quelquefois ce ne doit pas être facile d'y résister. Pour ce qui est de la personne qui vit avec toi, je te crois. Et avec ton esprit indépendant, ce ne doit pas être facile d'avoir chez soi une personne. Je te quitte en t'embrassant tendrement et en espérant que tu me pardonnes. À bientôt, ton Philippe. Galien est heureux et lui écrit pour lui dire que sa lettre lui a fait beaucoup de plaisir. Le ministre de la Justice convoque Galien dans son bureau.
Entrez. C'est un homme gros, petit, chauve, avec des lunettes dans les 60 ans, habillé d'un costume marine. Le bureau est une grande place meublée, Louis-Philippe. Veuillez vous asseoir, monsieur Galien.
Galien se demande ce qu'il lui veut.
Le ministre lui dit : Je vous ai fait venir, c'est pour vous demander un service, ou plutôt un travail. Voilà. J'ai longuement discuté avec mes collaborateurs et nous sommes dit, puisque la science le permet, pourquoi ne pas le faire? Vous êtes capable, je crois, c'est de faire revivre les cerveaux humains pour qu'ils puissent dialoguer avec nous.
Galien lui dit, sous certaines conditions, il faut que le cerveau ne soit pas trop endommagé, décomposé, et cela prend beaucoup de temps. Il faut créer un ordinateur avec l'ADN de la personne. Il faut réactiver le cerveau après l'avoir nettoyé, le connecter et lui apprendre les signaux qu'il reçoit et ceux qu'il doit envoyer. Il faut des mois pour réactiver un cerveau et lui apprendre à retravailler. Et l'ordinateur, il faut en faire un. C'est très long tout ça.
Le ministre lui dit, « Oui, mais c'est possible. »
« Oui, bien sûr, sous les conditions que je vous ai dites. Il faut apprendre au cerveau à retravailler, à comprendre les signaux qu'on lui envoie et il faut qu'il apprenne aussi à nous envoyer des signaux. Il faut faire aussi un ordinateur. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Le ministre lui dit, bien, 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 bien. Voilà mon idée. Et quelle idée ? Cela va montrer à ces sales gauchistes l'esprit de justice qu'a le gouvernement. J'ai l'intention, avec votre aide, c'est de faire revivre les cerveaux des grands criminels, violeurs, etc., etc., de créer une cour de justice pour les rejuger. Ce sera une justice historique post-mortelle. Des dommages et intérêts seront versés aux membres des familles décédées par les personnes qui ont été accusées à tort ou ont eu des peines de prison ou par des personnes victimes aussi. Dans le journal officiel sera décrété les nouveaux jugements et les excuses de la justice s'il le faut. Des historiens pourront participer à ces jugements pour en faire des livres. La télévision pourra diffuser ses procès. Qu'en pensez-vous ? Galien lui dit, c'est une bonne chose, mais comment retrouver le cerveau d'une personne qui était guillotinée, par exemple ? Le ministre lui dit, il est écrit où chaque corps a été. Beaucoup de ces corps sont allés aux scientifiques pour les desséquer. Mais certains cerveaux ont été gardés en souvenir dans des bocaux et d'autres ont été enterrés. Galien lui dit, je crains que ce soit vraiment impossible. Le ministre lui dit, ferez de mon le mieux. J'ai une liste des gens que l'on pourrait refaire les procès avec le lieu où se trouve le cerveau. Galien prend le papier et dit, et aussi à la date du décès. Il regarde la liste et dit, je crains que beaucoup de ces cerveaux soient complètement bouillis ou évaporés. Le ministre lui dit, vous en trouverez bien deux ou trois. Il me faut absolument quelques procès. J'ai promis à TF1 de lui en fournir pour des soirées spéciales. Et les pâtes Panzani sont prêts à sponsoriser les soirées. Vous avez un petit pourcentage vous aussi. Et vous vous rendez compte de la publicité que cela va vous faire, gratuitement même. Galien se dit, je comprends, c'est pas pour justice qu'il veut refaire ses procès, mais pour son porte-monnaie. Il lui dit, je crains que je sois obligé de refuser, c'est pas possible scientifiquement. Le ministre lui dit, tout est possible, vous m'avez dit tout à l'heure que ça l'était. Galien lui dit, sous certaines conditions, bien sûr, écoutez, réfléchissez et donnez-moi votre réponse, mais pensez à la justice. Galien lui dit, bien, je vais réfléchir, monsieur le ministre.
Et il se lève et sort.